Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui nous fais par chaque jour de ta grâce. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que nous croyons que le sang de l'agneau parle encore aujourd'hui en notre faveur. Seigneur, merci pour ton pardon, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies encore aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, Seigneur de gloire, nous sommes venus encore dans ta présence, Seigneur, afin d'être restaurés, afin d'être enseignés, Seigneur, afin d'être corrigés, afin d'être instruits, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être nourris ce matin, Seigneur, car devant les réalités de la vie, devant les difficultés de la vie, Seigneur, nous avons besoin aujourd'hui encore d'être fortifiés. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, nous reposer sur la chair, nous reposer sur notre propre intelligence, nous reposer dans des solutions humaines, Seigneur. Mais nous voulons nous reposer sur toi, parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu es tout-puissant. Seigneur, merci encore ce matin d'agir dans nos vies, de convaincre nos cœurs, de parler à nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous demeurions, Seigneur, dans tes voies, dans ton projet, dans ton plan, Seigneur, car c'est à cela que nous sommes appelés. Par ton enseignement, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons encore être transformés afin d'atteindre, Seigneur Dieu de gloire, la stature parfaite de Christ. Car la Bible déclare que nous avons été prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton Esprit Saint. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, afin que toute œuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet. Garde-nous, Seigneur Dieu de gloire, de toute forme d'incrédulité, de raisonnement, de distraction, Seigneur, car nous voulons être bénis ce matin, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qu'il est bon, qu'il est doux, Seigneur de gloire, pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction. Ce matin, nous voulons être bénis par ta parole, nous voulons être fortifiés, nous voulons être consolés, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul, dans tous les siècles des siècles, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et ensuite, nous irons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Genèse, le livre qui nous explique le commencement de toute chose, le commencement de la création, et qui nous montre comment les choses étaient à l'origine. Le Seigneur avait fait les choses de façon très parfaite. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à retrancher. Il avait créé les choses pour que l'homme puisse vivre dans la paix, pour que l'homme puisse vivre dans l'harmonie avec tout ce qui avait été créé, et qu'il vive dans une parfaite présence du Seigneur. L'homme avait tout pour être heureux. Lorsqu'il a été créé, il ne craignait pas la maladie, il ne craignait pas les intempéries, il ne craignait pas tout ce qui pouvait être désagréable à la chair. Mais le Seigneur lui avait donné un ordre, l'ordre de ne pas toucher un arbre en particulier, l'arbre dont le fruit permettait d'ouvrir l'intelligence et d'accorder à l'homme la capacité de faire la différence entre le mal et le bien. Et la femme va être séduite, telle que nous l'avons lu à partir du chapitre 3, va être séduite par le serpent, qui va réussir à amener l'homme et la femme à entrer dans la convoitise de vouloir être comme Dieu, de vouloir égaler Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui encore, à notre ère, les gens qui refusent de venir au Seigneur, quelque part c'est parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils ont le sentiment que la présence de Dieu dans leur vie ne va pas changer leur quotidien et ne leur donnera rien de plus. Alors ils se prennent eux-mêmes pour leur propre Dieu et décident de dicter leur vie comme bon leur semble. Et c'est ce qui va se passer avec Adam et Ève, et le Seigneur va venir à leur rencontre pour leur demander « Mais pourquoi vous avez désobéi ?» Il va poser la question « Adam, qu'est-ce qui se passe ?» Adam va dire « Mais voilà, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé. » Et maintenant, leurs yeux se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils se sont retrouvés dans une position qui était honteuse. Or, avant de pécher, de manger ce fruit-là, le sentiment de honte, ils ne le connaissaient pas. Et à cause du péché d'Adam, le Seigneur va maudire l'homme, mais il va en même temps maudire toute la création. Il va dire que voilà, désormais, tout était gratuit, tout était simple et facile pour toi. Lorsqu'il fallait cueillir un fruit, il n'y avait pas d'effort physique, il ne ressentait pas toutes ces choses-là. Mais il dit, désormais, puisque tu as péché, eh bien, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Tu devras travailler difficilement la terre pour en tirer de son fruit. Sans le cas, tu mourras certainement de faim. Donc il oblige l'homme, il soumet l'homme quelque part à la création et à tous les aléas que nous pouvons connaître aujourd'hui. Alors lorsque nous parlons de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, nous parlons tout simplement de mal sur la terre. La Bible nous en donne l'origine. Il y a le mal sur la terre aujourd'hui, tel que nous pouvons le constater à une grande échelle. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut se vanter d'être à l'aise sur tous les points. Même dans les pays comme le nôtre, où il n'y a pas de problème d'électricité, il n'y a pas de problème d'eau potable, il n'y a pas le problème de guerre civile, nous ne sommes pas épargnés de la maladie. Nous ne sommes pas épargnés des intempéries, des inondations. Nous ne sommes pas exemptés du taux de suicide qui est très fort en France, du taux d'accident de la route qui ne fait qu'augmenter. Donc même si nous avons des choses sur lesquelles nous pouvons dire nous sommes à l'aise, mais il y a toujours un problème qui demeure et nous le constatons autour de nous à travers les violences et toutes sortes de choses. Et tout ce que nous vivons de mal est lié tout simplement au péché que Adam a commis. Puisqu'il a péché, eh bien, il s'est mis sous la condamnation du mal et sous la condamnation de la mort. Ainsi, tout ce que nous vivons aujourd'hui est lié à la souffrance est lié au péché d'Adam. Et le Seigneur, lorsqu'il a maudit la terre, il n'a jamais fait la promesse ou il n'a jamais dit que il rétablira toutes choses sur la terre. Derrière le péché d'Adam, eh bien, il y a tout simplement l'affirmation que le monde court à sa perte. C'est un monde qui est maudit et le Seigneur ne reviendra pas en arrière concernant le jugement qu'il a appliqué sur la terre. Mais parce que Dieu est bon, il va faire en sorte, par le sacrifice de Jésus-Christ, de nous racheter, de payer la rançon, afin que même si la terre est soumise au mal, même si la terre est soumise à la future, au futur jugement de Dieu, à la destruction, le Seigneur nous donne, nous, l'opportunité, l'occasion de pouvoir, comment dire, fuir ce jugement dernier qui aura lieu un jour, tout simplement en venant au Seigneur et en donnant notre vie à Jésus-Christ et en vivant selon ce qui est écrit. C'est le moyen par lequel le Seigneur nous fait la promesse, eh bien, tout simplement de connaître les jours heureux un jour lorsque nous serons éternellement avec lui. Alors, devant tout ce que le Seigneur proclame en termes de jugement, eh bien, cela fait partie aujourd'hui des réalités de la vie. On voit quelquefois des personnes, au mois de décembre, au mois de janvier, en France, se plaindre qu'il fait froid. Mais comment tu peux te plaindre qu'il fait froid au mois de décembre ou au mois de janvier ? Nous savons clairement que selon les saisons, c'est tout à fait normal qu'au mois de décembre et qu'au mois de janvier, il y ait du froid. Alors, se plaindre de ça, c'est comme si tu voulais vivre sous la terre en disant que moi, je veux vivre, mais je ne veux plus que le froid, que l'hiver existe. Mais c'est totalement impossible. L'hiver, le froid, fait partie, ben, tout simplement, de notre vie sur la terre. Ça fait partie de ça. Qui va être étonné de voir la neige tomber au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février ? Personne ne va être étonné parce que nous savons très bien que c'est la période de froid où ben, il est possible que la neige tombe. Ou bien qui va s'offusquer d'aller dans un pays comme le Maroc, d'aller dans la zone désertique et puis d'être frappé par le soleil à 40 degrés, 50 degrés et de dire « mais finalement il fait trop chaud ici ». Mais est-ce que tu as vu dans l'endroit où tu te trouves pour que tu t'étonnes qu'il fasse trop chaud ? Et beaucoup d'humains aujourd'hui sont étonnés de voir les souffrances sur la terre. C'est comme si c'était quelque chose d'anormal. Lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsque des gens souffrent de la faim, lorsqu'il y a des guerres, les gens trouvent ça bizarre, trouvent ça anormal. Mais on trouve les choses anormales lorsqu'on n'a pas la connaissance du lieu sur lequel nous sommes. Celui qui vit dans le désert ne trouve pas anormal que le soleil chauffe, parce que ça fait partie des réalités du désert. Ainsi, sur la terre, nous devons accepter aussi qu'il y a des réalités qui sont liées à la terre, qui sont liées à notre vie, notamment la souffrance, notamment les malheurs, notamment les décès, les guerres, les tremblements de terre, ça fait partie de la vie terrestre. Refuser ces réalités-là, eh bien, c'est entrer dans une souffrance finalement qui n'en finira pas. C'est entrer dans une angoisse pour laquelle il n'y aura aucune guérison. C'est entrer dans une peur pour laquelle il n'y aura aucune assurance. Mais lorsqu'on accepte de vivre avec ces réalités-là, parce que nous avons conscience que le monde est comme ça et que malheureusement on n'y peut rien, c'est désormais à nous de nous adapter. C'est à nous de vivre en fonction des réalités que nous avons trouvées sur la terre. Mais le Seigneur savait que ces réalités-là étaient au-dessus de notre force. Elles sont au-dessus de notre force. Pour preuve, c'est que les gens se suicident. Ils se suicident parce qu'à un moment donné, ils sont excédés par rapport aux réalités qu'ils rencontrent au quotidien, dépassés par la méchanceté, dépassés par leur incapacité à résoudre leurs propres problèmes. Alors le seul moyen qu'ils trouvent, eh bien, c'est tout simplement de se suicider. D'autres n'ont pas de recours par les mots, par la parole, alors ils trouvent le moyen de résoudre leurs problèmes, eh bien, en faisant violence, parce qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse indéfiniment satisfaire l'homme. Donc nous devons accepter aujourd'hui de vivre dans une société où il est possible qu'on ne soit pas d'accord sur tous les points. Il y a des personnes qui ne veulent s'entendre qu'avec les personnes pour lesquelles ils vont être d'accord sur tout. On peut ne pas aimer la même couleur, toi et moi, mais est-ce que c'est un problème pour pouvoir marcher ensemble ? Ce n'est pas un problème. On peut aimer telle ou telle chose et vivre ensemble sans qu'on ait le même amour pour le même loisir ou bien pour le même travail. Et l'homme refuse justement de vivre dans cette différence-là qui est une contradiction par rapport à son idéal de vie à lui. C'est-à-dire que lui, il voit que la vie est bien selon ce qu'il imagine, selon ce qu'il voit. Alors toute personne qui va à l'encontre de ce qu'il pense, il le considère comme un ennemi, il le considère comme quelqu'un qui est méchant, comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Mais les réalités de la vie, c'est aussi d'accepter que nous avons des caractères différents, nous avons des visions différentes, nous avons un cœur différent. Mais l'homme refuse de vivre dans toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'entente. Quand deux parties se discutent pour faire un travail ensemble, pour faire un marché, pourquoi on parle de négociation ? On parle de négociation parce qu'il y a celui qui est peut-être celui qui fait l'offre, qui a son idée du projet, et il y a celui qui est à la demande, qui a aussi son idée de ce qu'il veut dépenser. Alors, il y a une contradiction entre ce que l'autre veut et ce que l'autre veut aussi. Et là, les hommes n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils trouvent que, non, il faut que soit toi tu viennes de mon côté, ou soit l'autre aille de l'autre côté. Vivre avec des personnes qui ont des points différents devient un problème. Mais ça fait partie des réalités de la vie. On ne peut pas obliger les gens à penser comme nous, à vivre comme nous, à parler comme nous, pour être en paix et pour être heureux. Sinon, nous allons marcher dans la même logique que les dictateurs fonctionnent. Parce que c'est ça la dictature. C'est d'imposer sa vision, d'imposer sa volonté au reste. Et on utilise les moyens forts, les moyens violents, s'il le faut, pour obliger l'homme à marcher selon ce que moi je trouve être juste. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Et le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des réalités que nous avons trouvées. C'est à nous de nous adapter et de nous soumettre à cela. Quel est aujourd'hui le chef d'État, ceux qui sont garants de la loi, qui vont accepter qu'un individu d'un autre pays arrive en France et décide que moi, je vais rouler à gauche. Parce que j'ai décidé de rouler à gauche, là d'où je viens, je roule à gauche. On va lui dire, mais monsieur, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont le code est établi ici, rentrez tout simplement chez vous. Mais si vous êtes venu ici, c'est à vous de vous adapter et de vous soumettre à la loi du pays. Lorsqu'on parle du problème d'intégration en France, mais c'est un pays de droit, un pays où il y a des lois. Et toi, tu veux vivre comme tu vis dans ton pays d'origine. Mais si tu veux vivre comme dans ton pays d'origine, mais c'est mieux d'y retourner. Mais il y a un minimum à respecter lorsque tu viens dans un pays où il y a des lois, c'est de respecter les lois et de te soumettre. Si tu refuses de te soumettre aux lois et à la loi du pays, mais c'est mieux de rentrer chez toi et de vivre selon les lois dans lesquelles tu penses te sentir à l'aise. Mais c'est à toi de t'intégrer dès l'instant où tu arrives dans un pays où tu es étranger. Mais la Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes passagers sur la terre, nous sommes des étrangers. Autrement dit, ce pays, quel que soit le pays, en tout cas la terre sur laquelle nous sommes, eh bien, il y a des réalités qui ne sont pas nos réalités à nous, celles que le Seigneur nous a préparées au ciel. Mais pendant ce temps que nous sommes là, mais il y a des réalités qui nous sont imposées et nous devons nous y soumettre parce que les choses ont établi comme ça et ça ne changera pas. On peut essayer par toutes sortes de procédures, par toutes sortes de procès, je parle de procès parce que j'avais entendu il y a quelques mois qu'un homme avait décidé de porter plainte contre Dieu. Bon, voilà les aberrations dans lesquelles on arrive. Pourquoi ? Parce qu'on refuse de se conformer aux réalités que la terre, que le Seigneur nous a soumis à cause du péché d'Adam. Le mal fait partie de la terre. Les conséquences du péché, elles sont là. Et personne ne va être épargné par ces réalités-là. Que celui qui n'est jamais tombé malade lève la main et dit « Je n'ai jamais été malade, c'est impossible. » Mais la maladie est la conséquence du péché d'Adam. Et qu'on le veuille ou pas, on l'a subi. Alors, il y a deux points. Il y a ceux qui vont accepter de se dire « Voilà, la terre est telle qu'elle est, avec tous ses problèmes. J'accepte d'affronter ces réalités-là en marchant selon la volonté de Dieu. » Ou bien il y a celui qui dit, la terre est inhospitalière, moi je ne supporte pas. Alors je préfère vivre à contre-courant, combattre tout ce que je peux combattre pour essayer d'imposer ma vision. Bien entendu que c'est un combat qui va à sa perte, puisque tu finiras par mourir un jour et ton combat tu ne le finiras jamais. Et il y a ceux, tout simplement, qui disent, je vais me suicider parce que je n'ai rien à faire sur cette terre. Nous prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» On s'arrête là pour l'instant. Les disciples posent la question au Seigneur ou posent, deux, trois questions au Seigneur dans une seule. Ils sortent du temple et ils contemplent le bâtiment qui est là. Le bâtiment, certainement, qui faisait leur fierté parmi les autres nations. Comme aujourd'hui, les Français vont se glorifier d'avoir la plus belle ville du monde. On dit que c'est Paris, avec les plus beaux monuments, la Tour Eiffel. On en fait des porte-clés, on en fait des photos. Et c'est ça qui fait la fierté, quelque part, de certains Français. Et d'autres Américains vont se glorifier de leur gratte-ciel. Et voilà, en fonction des monuments, à part, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est ça qui vont faire leur gloire. Et les disciples, disent au Seigneur, regarde le bâtiment, regarde le temple, certainement tel qu'il est beau. Et le Seigneur va, en quelque sorte, les refroidir dans sa réponse. Il dit, mais vous voyez toutes ces choses-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Il dit que toutes ces choses-là vont être détruites. Mais il le dit avec une simplicité, il le dit avec une facilité, parce que pour lui, le bâtiment n'avait pas l'importance que les hommes pouvaient lui donner. Le bâtiment était lié à la terre, mais le regard du Seigneur était spirituel pour toute chose. Alors, lorsque nous vivons aujourd'hui sur la terre et que nous passons du temps à murmurer, à nous rebeller parce que nous n'acceptons pas les difficultés de la terre, c'est uniquement parce que nous oublions que nous ne sommes que de passage. L'homme vit comme s'il va être éternel sur la terre. Alors ses pensées et ses objectifs sont uniquement tournés sur tout ce que la terre peut lui offrir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne peut être angoissée? C'est uniquement par rapport aux choses de la terre. Peut-être parce qu'il manque d'une paire de chaussures, peut-être parce qu'il aimerait s'acheter une maison qu'il n'a pas les moyens, il aimerait réparer sa voiture, il n'a pas les moyens. Donc tout ce qui fait le souci d'un homme est automatiquement lié à la terre. C'est pourquoi dans Matthieu 6, lorsque le Seigneur parle à ses disciples, il leur demande de ne pas s'inquiéter. Mais de ne pas s'inquiéter de quoi? Il parle du vêtement et du manger, donc il parle de tout ce qui est lié à la terre. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, les enfants de Dieu, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné. Donc il veut nous dire par là que les choses de la terre ne doivent pas être notre souci, mais que notre regard doit avant tout être spirituel. C'est le moyen par lequel nous pouvons vivre sur la terre avec ces réalités-là, tout en servant le Seigneur, sans que les problèmes de la terre deviennent un obstacle pour nous. Qu'est-ce qui nous fait sortir du plan de Dieu? C'est lorsque notre regard est tourné vers la terre. C'est lorsque la terre a pris une place importante dans notre vie. Mais lorsque notre regard est tourné vers le Seigneur et que la terre, pour nous, ne représente rien du tout, alors nous sommes libérés de toute forme d'inquiétude. Nous sommes libérés de la peur, de la crainte du lendemain. Mais tant que notre cœur est attaché à la terre, eh bien c'est là où les problèmes commencent. Et les apôtres, les disciples posent la question, « Alors dis-nous, quand cela arrivera-t-il » C'est-à-dire, à quel moment ce bâtiment-là va être détruit? Mais il leur dit aussi, « Quel sera le temps de ton retour et quelle sera la fin du monde ?» Et le Seigneur va leur répondre, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis Christ, et ils se diront beaucoup de gens. » Les réalités de la vie, c'est ce qui nous décourage. C'est ce qui nous emmène quelquefois à nous interroger sur notre propre relation avec Dieu. L'un des signes de la fin des temps, le Seigneur dit, « Attention que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Alors, il dit déjà que, même dans le monde spirituel, même dans le lieu où nous sommes censés avoir la vie, produire la vie, être enseigné, grandir dans la foi, il dit même là, attention que personne ne vous séduise. Et beaucoup de chrétiens ont été déçus de se dire, j'ai quitté le monde parce que j'ai tellement été déçu. Les réalités de la terre m'ont tellement affaibli, m'ont tellement découragé que j'arrive dans ce qu'on appelle l'église. Et là aussi, je suis encore découragé. Et beaucoup baissent les bras. Beaucoup sont découragés parce que là où ils pensaient trouver un soutien, ils se rendent compte que là aussi, il y a des combats. Alors la tentation de renoncer, la tentation de repartir dans le monde est grande. Certains ont franchi le pas, ils sont repartis en arrière. Il y a d'autres qui traînent des pieds, qui s'accrochent au Seigneur, mais avec difficulté, parce que toutes ces réalités-là, finalement, nous affaiblissent physiquement, moralement. Et on se dit, mais finalement, où aller ? Dans le monde, c'est pourri, et on arrive dans l'église. Il suffit de voir tout ce que l'on voit sur Internet, où on donne à manger des gens de l'herbe comme des animaux en leur faisant croire qu'ils seront bénis de cette manière. Donc il y a toutes sortes d'aberrations, toutes sortes de tromperies dans lesquelles les enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Et le Seigneur avertit que oui, les gens viendront en mon nom. Il dira plus tard qu'ils feront toutes sortes de prodiges et de miracles. Et là encore, ça crée notre déception. Et cette déception emmène beaucoup de personnes à sortir de la voie de Dieu et à renoncer à leur propre salut. Mais lorsqu'on agit de cette manière, c'est que tout simplement nous n'avons pas accepté les réalités de la vie. Le Seigneur l'a annoncé à l'avance, que les choses seront ainsi. Alors, se détourner du Seigneur parce que nous sommes déçus d'un pasteur, parce que nous sommes déçus d'un chrétien, c'est uniquement refuser la vie telle qu'elle nous l'est imposée. C'est comme quelqu'un, comme je donnais l'exemple, qui va dans le désert mais qui refuse d'être brûlé par le soleil. Alors c'est que, quelque part, il a une vision du désert qui est totalement erronée. Et si nous, nous passons à côté de ce que le Seigneur a annoncé à l'avance, c'est une manière de refuser tout simplement ce que la vie nous impose, même dans le monde de l'Église. Alors, la part nous revient de se dire les choses sont ainsi. Ce n'est pas être fataliste, c'est être réaliste que de se dire la réalité est comme ça, on ne peut pas la changer. Alors, puisque la réalité, on ne peut pas la changer, c'est à moi de m'adapter, d'adapter ma façon de vivre afin que soit l'Église, afin que soit le monde ne soit plus une pierre d'achoppement pour moi. Ce qui pouvait être difficile à la chair, le Seigneur l'a rendu possible. Parce qu'il dit que parce que nous avons cru à l'Évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc la vie de Dieu au-dedans de nous, nous donne la capacité de vivre malgré la réalité de ce que nous pouvons voir et de ce qui peut nous décourager. Avec le Saint-Esprit en nous, nous avons désormais la possibilité de vivre une vie comme le Seigneur nous le demande. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous entendons des guerres, des bruits de guerre, a, pour le malheur de certains, ce qui nous emmène, ou qui emmène beaucoup de personnes à douter de l'existence de Dieu, le Seigneur dit que ce n'est que le commencement. Lorsqu'on parle de commencement, ça veut dire tout simplement qu'il reste encore à faire. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, n'est pas prêt de s'arranger. Et on doit être psychologiquement prêt à accepter et de vivre avec ça. Que nous sommes qu'au commencement des douleurs. Le Seigneur nous prévient que les choses ne vont faire que s'empirer. Alors vivre en voulant occulter cette vérité va nous amener à vivre une vie de mensonge. Une vie dans laquelle finalement on se ment à nous-mêmes, où on crée notre propre monde en se disant « les choses iront mieux, ça va s'arranger, je vais être heureux ». Le vrai bonheur, on ne pourra jamais le connaître sur terre. On ne pourra jamais le connaître sur terre. Alors vouloir s'accrocher à la vie, vouloir vivre en fonction des plaisirs de la terre, c'est tout simplement une perte de temps. Et c'est se mentir à soi-même. On doit être conscient que le mal dans le monde ne va faire que s'amplifier, ne va faire que augmenter. Et alors, au lieu de fuir, au lieu d'occulter la vérité, nous devons nous adapter à cela et faire la volonté de Dieu en fonction de ces réalités. Il n'y a pas un autre choix. Croire que les choses vont s'améliorer d'ici quelques années, d'ici quelques temps, c'est se tromper soi-même. Le Seigneur nous annonce clairement que ce n'est que le commencement. Ces choses doivent arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi l'amour du plus grand nombre se refroidira? On parle là de l'amour par rapport à l'amour de la vérité. Pourquoi l'amour de la vérité va commencer à quitter les gens? Parce que l'iniquité ne va faire que s'accroître. Parce que l'injustice ne va faire que grandir. Et les gens vont être découragés par rapport à tout cela. Lorsque je parle d'injustice, je parle de ce que nous pouvons subir comme persécution. C'est vrai en tant que chrétien, mais à travers tout ce que nous pouvons voir tout simplement dans le monde entier. De voir aujourd'hui des pays africains qui ont tout l'or du monde, qui ont la plus grande richesse terrestre, mais d'être exploités de cette manière, injustement, au regard de toutes les nations, et que personne ne fait rien, ça c'est de l'injustice. De voir aujourd'hui des enfants maltraités et que tous les moyens ne soient pas mis en œuvre pour faire ce qu'il faut, ça c'est de l'injustice. De voir aujourd'hui que pour un petit problème, monsieur tout le monde risque d'aller en prison, mais que pour le même problème, monsieur le ministre des Finances ou bien de l'économie va être relaxé, ça c'est de l'injustice. Et devant tous ces faits-là, il y a comme un dégoût du monde qui naît. Le dégoût de vivre, le dégoût d'être sur cette terre où finalement, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Même s'il y a un semblant de démocratie, mais on sait réellement que c'est leurs projets à la fin qui aboutiront. Et devant toutes ces réalités-là, il y a une fatigue qui peut naître en nous. On peut rapidement se lasser de la vie. Certains vont peut-être même aller demander au Seigneur de mourir, de me reprendre, parce que vivre sur une terre comme ça, ce n'est plus possible. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Rien ne va s'arranger. Alors comment vivre sur cette terre, finalement? Comment vivre sur cette terre en acceptant toutes ces réalités-là? Il y a des gens qui sont hospitalisés depuis des mois, qui n'ont pas peut-être le nom qu'il faut, le rôle qu'il faut dans la société, pour être rapidement soigné. Et il y a monsieur un tel qui arrive et au bout d'un mois, on l'a déjà soigné, on lui a déjà fait les dons d'organes qu'il fallait alors que les autres attendaient depuis longtemps. Je n'encourage pas aux dons d'organes. J'explique tout simplement ces choses-là pour montrer l'injustice qui est là. Parce qu'il a un nom. Tu peux te faire voler ta voiture aujourd'hui, te faire voler ton vélo et puis les choses vont se tasser parce qu'on a d'autres choses à faire que de nous occuper de ta Peugeot 206 qui a été volée. Mais à côté, on vole le scooter du fils du président et on fait même déplacer la police scientifique pour retrouver le scooter. C'est le monde dans lequel nous sommes, rempli d'injustice et les choses ne vont pas s'arranger. Il y a des gens qui cherchent de l'emploi, depuis longtemps, qui cherchent à travailler. On ne trouve pas du travail. Et à côté, on emploie fictivement des gens à qui on donne des salaires pour un travail qu'ils n'ont jamais fait. Et ce n'est pas le SMIC qu'on leur donne, c'est des gros salaires. Alors qu'en attendant, il y a des Français qui souffrent et qui demandent à travailler. C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais ce monde ne peut pas changer. Il ne peut pas changer tout simplement. Parce que premièrement, Dieu a prononcé un jugement sur cette terre. Et deuxièmement, parce que ce qui fait ce monde, c'est l'homme. Et tant que le cœur de l'homme sera mauvais, il ne pourra rien produire de bon. Le seul moyen par lequel un homme peut commencer à poser des actes dignes de la repentance, des actes qui glorifient le Seigneur, c'est uniquement lorsque Jésus-Christ l'a transformé. Alors ne nous trompons pas, bien-aimés. Tant que le monde entier ne sera pas touché par l'Évangile, ne rêvons pas à connaître un vrai bonheur sur la terre. Alors comment vivre? Voyons l'exemple de trois personnes qui ont compris quelle était la vie tout simplement qu'ils devaient adapter sur la terre pour vivre sur cette terre qui est déjà maudite. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» La voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, qui avait le rôle de préparer les cœurs à recevoir le Seigneur qui allait venir. Par sa prédication, il emmenait les gens à se repentir de leurs péchés et à avoir un cœur disposé à recevoir celui qui était plus que lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui devait venir pour le salut de toutes les nations. Jean-Baptiste était habillé de vêtements de poils de chameau. Il mangeait des sauterelles. À notre époque, on dirait que cet homme est fou. On dirait que cet homme est insensé. On chercherait à tout prix à l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Mais Jean-Baptiste savait pourquoi il était venu sur terre. Son habillement montre tout simplement qu'il n'avait que faire de ce que les gens pouvaient penser de lui. Il n'avait pas honte de ce qu'il était. Son habillement montre que il avait renoncé au monde, à la question des beaux vêtements, des vêtements somptueux, comme les pharisiens qui portaient de beaux vêtements pour être vus dans les rues. Ce n'était pas ça son problème. Jean-Baptiste n'avait pas un regard fixé sur les choses terrestres, mais il avait un seul souci, un seul objectif. C'était de faire l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Lorsqu'on se tourmente, qu'on se chagrine par rapport aux choses de la terre, c'est qu'on n'a pas compris l'objectif pour lequel le Seigneur nous a rachetés. C'est pour vivre uniquement pour le servir, vivre uniquement pour sa mission. Si notre regard est fixé vers ce que Dieu nous demande, alors ce que les gens peuvent penser, ça ne va pas nous importer. Ce que les gens peuvent dire, ça ne nous fera rien parce que nous avons un objectif, c'est de servir le Seigneur, d'accomplir la mission. On ne peut pas aujourd'hui vivre dans ce monde-là en tant qu'enfant de Dieu si quelque part nous ne renonçons pas au monde. Renoncer au monde, ce n'est pas chercher à mourir ou bien à aller vivre dans l'espace. C'est tout simplement n'avoir aucune attache sur la terre, n'avoir aucune espérance terrestre, puisque dans tous les cas, cette terre passera. Dans tous les cas, la mort va demeurer, dans tous les cas, le mal va demeurer. Alors comment vouloir à tout prix se sédentariser, comment vouloir à tout prix former, je dirais, des objectifs pour lesquels on va se torturer à tout prix à accomplir sur la terre, ne sachant même pas de ce qui sera fait demain. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets, ce n'est pas mauvais d'avoir des objectifs, mais que nos objectifs et que nos projets soient associés au Seigneur, que nous considérons que tout ce que nous le faisons uniquement pour la gloire de Dieu. Considérer que ta maison, que ta voiture, que ton travail, que ton salaire sont les moyens que Dieu met à ta disposition pour le servir. C'est ça la réalité. Mais si nous pensons que tout ce que Dieu nous donne sur la terre, c'est fait pour aller bronzer au soleil, avec les doigts de pied écartés, avec un jus d'orange à côté, ou je ne sais pas quoi, bien aimé, c'est que nous nous sommes trompés et que nous n'avons pas compris la réalité de la vie. À quoi bon vivre comme des animaux ? Manger, dormir, en attendant tout simplement la mort, dans un monde qui est incertain, dans lequel où tu n'es même pas sûr que tes projets prendront vie, si Dieu ne t'en fait pas grâce. Jean-Baptiste avait renoncé à la terre. Ce qu'il mangeait, sa façon de s'habiller, témoignait que cet homme-là était dans un autre monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jean-Baptiste était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Dans sa tête, il était dans une autre planète. Dans sa tête, il était dans les lieux célestes. La vie lui importait peu. Son seul souci, c'était de prêcher le Seigneur, de disposer les cœurs à recevoir Jésus-Christ. C'est de cette manière-là, bien-aimés, que nous pouvons tenir sur cette terre, sans être découragés, en tenant compte des réalités et en ayant tout simplement les yeux fixés vers le projet et l'objectif que Dieu nous a donné. Voyez l'exemple de Jean-Baptiste. Et malgré cela, malgré sa prédication, les gens venaient vers lui. Donc on voit clairement que sa façon de vivre n'était pas un obstacle pour l'œuvre de Dieu. N'était pas un obstacle pour que les gens viennent à la repentance. Parce que les gens venaient en masse, malgré son apparence, malgré sa prédication qui était dure, sans compromis, et d'ailleurs qui lui a valu la mort d'être décapité à cause de la vérité. Parce qu'il ne vivait que pour ça. Et si nous, nous voulons tenir sur cette terre, c'est en gardant en tête l'objectif. Travailler pour la mission que le Seigneur nous a confiée. De faire le travail comme de véritables disciples. Dieu t'a fait grâce d'être mère de famille. Élève tes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie qu'ils doivent suivre, bien entendu, c'est celle du Seigneur. Fais l'œuvre d'une servante de Dieu. Considère que tes enfants sont des futurs serviteurs que tu es en train de former, d'éduquer. Si Dieu t'a fait grâce d'être père de famille, fais les choses non pas pour ta gloire, non pas pour ta fierté, pour te vanter demain que ton fils est médecin, que ton fils est ingénieur. Ce n'est pas parce que ton fils est ingénieur qu'il ira au ciel. Ce n'est pas parce que ton fils est le plus grand des chirurgiens qu'il ira au ciel. Qu'il soit ingénieur ou chirurgien, que Dieu soit béni. Mais l'objectif final, ce n'est pas ça. S'il n'y a pas de relation avec Jésus dans tout ce que nous faisons, nous sommes tout simplement passés à côté de la vie que le Seigneur voulait pour nous. S'accrocher à ce monde-là et avoir des projets qui ne vont servir qu'à la chair, c'est que nous n'avons pas compris la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Jean-Baptiste l'avait compris et il n'avait les regards que fixés vers le Seigneur et l'objectif que Dieu lui avait donné. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, nous lisons verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Les gens qui ont eu la foi, qui ont eu le témoignage favorable de la part de Dieu lui-même, ce ne sont pas ceux qui ont conquis des terres, qui ont ressuscité des morts, qui ont fait des exploits surnaturels. Mais ce sont ceux qui ont accepté de faire confiance au Seigneur. Ceux qui ont accepté que le Seigneur avait raison, que le Seigneur ne se trompe pas dans tout ce qu'il a permis dans leur vie. Et la Bible dit que ces gens-là, certains d'entre eux, de leur vivant, n'ont même pas obtenu leur promesse. Ils n'ont pas vu se réaliser toutes leurs prières. Mais la Bible nous dit qu'ils les ont tout simplement salués de loin. C'est-à-dire, c'est des personnes qui avaient une vision très grande de Dieu. Ils avaient une conscience que Dieu était vraiment tout puissant, qu'au moment où ils ont exprimé leur prière, ils savaient que Dieu leur avait déjà accordé. Par conséquent, ils n'exigeaient même pas que l'exaucement soit manifesté en chair. Spirituellement, ils ont vu que Dieu avait déjà tout accompli. Et pourquoi ils n'avaient aucun empressement à voir ces choses être manifestées de façon terrestre? C'est parce qu'ils avaient l'espérance des choses célestes. Pour eux, la beauté de ce qui était dans le ciel était de loin beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable de tout ce que Dieu pouvait leur accorder sur la terre. Ils avaient une telle soif d'être proches du Seigneur, d'être près de Dieu et de vivre la gloire de Dieu dans le ciel, que les choses de la terre n'avaient plus aucune valeur pour eux. On ne peut pas aujourd'hui servir le Seigneur, vouloir être heureux sur la terre en étant attaché aux choses du monde. Parce que lorsque nous sommes attachés aux choses de la terre, ce sont ces choses-là qui vont garantir quelque part notre bonheur, notre paix. Comme on nous l'a dit tout à l'heure pendant la louange, le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Comment pouvons-nous être joyeux en permanence dans un monde où les gens meurent chaque jour, où il y a la discrimination, où il y a le mal? Comment pouvons-nous être heureux? Nous ne sommes pas heureux à cause des choses de la terre. Nous sommes heureux à cause des promesses à venir. Donc le simple fait de penser que notre Seigneur revient, le simple fait de penser que lorsque nous serons au ciel, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, le Seigneur essuiera toutes nos larmes, c'est ça qui produit notre joie. Par la foi, nous vivons comme des personnes qui ont déjà expérimenté et goûté au don de Dieu. Et c'est ça qui produit notre joie, parce que nous savons que les malheurs cesseront un jour. Bien que nous souffrons aujourd'hui, nous savons qu'un jour il n'y aura plus de maladie. Bien que nous soyons affaiblis aujourd'hui, que nous soyons dans le manque aujourd'hui, nous savons qu'un jour nous ne manquerons plus de rien. Alors devant toutes ces promesses-là, nous ne pouvons que être joyeux. Et les héros de la foi, ceux qui ont eu le témoignage favorable du Seigneur, étaient dans cette configuration. Ils regardaient aux choses que le Seigneur avait déjà préparées au ciel. Alors, tout ce qu'ils avaient demandé ici ne pouvait plus, comment dire, être l'objet d'une convoitise ou bien même être la source de leur bonheur. On voit aujourd'hui celle qui n'enfante pas, celui qui n'enfante pas, la détresse dans laquelle il se trouve. Le besoin qu'il a à tout prix d'avoir un enfant est beaucoup plus grand que de voir les réalités du ciel. On voit aujourd'hui celle ou celui qui veut se marier. Et le temps qui paraît tellement long, qui voudrait tellement entrer dans cette bénédiction, que la pensée du ciel ne le console même pas. Parce qu'il veut à tout prix vivre cela sur la terre. Mais de cette manière-là, on va être au même rang que les païens, qui attendent de pouvoir chanter, de pouvoir danser, au moment où ils touchent de leur main leur bénédiction. Mais ceux qui ont compris que toutes ces choses-là ne sont que passagers, que toutes ces choses-là font partie de la terre et ça passera, et qui ont un regard sur le ciel, ce sont ces gens-là qui sont sur la terre, que Dieu leur donne, que Dieu ne leur donne pas, que Dieu leur donne et que Dieu reprenne ce qu'il a donné, ça ne change pas leur état d'âme, ça ne change pas leur vie, parce que leur bonheur ne dépend pas de ça, mais leur bonheur dépend de Dieu. Comme Job a dit, mais pourquoi je vais haïr maintenant le Seigneur parce qu'il a pris? Je suis venu nu. Je n'avais rien quand je suis venu. Tout ce que j'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais s'il décide de le reprendre maintenant, où est mon problème? L'Éternel a donné, il a repris. Que son nom soit béni. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver, afin que toutes les choses de la terre ne soient plus pour nous des pierres d'achoppement, ne nous découragent plus. Que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous entendons ne devienne plus un problème pour nous, pour vivre le projet du Seigneur et œuvrer pour le Seigneur. Ayons la foi. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Il faut que soit par ma vie, soit par ma mort, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà un homme qui a consacré sa vie au Seigneur. Il dit que, dans d'autres passages, il dit que tout ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme pertes. Il dit encore que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse mon œuvre, pourvu que j'accomplisse la mission. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été sauvé par le Seigneur, a mis sa vie au service du Seigneur. Pourquoi des gens comme l'apôtre Paul, qui était un homme comme nous, qui n'avait rien de plus que nous, qui n'a pas eu une grâce plus excellente que nous, mais qui a eu part à la même grâce, parce qu'il a rencontré le même Seigneur que nous avons rencontré. Comment des gens comme l'apôtre Paul peut dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé ce qui était essentiel. Je ne me suis pas trompé d'objectif. » C'est parce qu'il a consacré sa vie au Seigneur. Et que tout ce qui se passait dans le monde n'était plus un problème pour lui, parce que sa vie était consacrée pour servir le Seigneur, quelles que soient les conditions dans lesquelles il pouvait se retrouver. Et il prouve cela lorsqu'il dit, « Pour moi, mourir m'est un gain. » Pour lui, mourir lui est un gain. Donc, il tire sa victoire. Donc, pour lui, mourir, c'est une victoire. Parce qu'il sait que s'il meurt aujourd'hui, il se retrouve directement avec le Seigneur. Il dit, « Je suis pressé de deux côtés. » Il est pressé de deux côtés parce qu'au-dedans de lui, comme il l'a dit aussi que il ne peut pas se taire. Il y a quelque chose qui l'oblige à servir le Seigneur. Pour lui servir le Seigneur, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Donc sa vie, ce qui est vital pour lui, c'est d'être au service du Seigneur. Mais il dit aussi que à choisir, s'il avait le choix, mais il dit « Il sait que de loin ce qui est meilleur, c'est de retrouver son Seigneur ». Donc par cette parole-là, il montre clairement il est prêt à ce que le Seigneur le reprenne aujourd'hui. Si Dieu lui pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou je te reprends? Mais s'il avait eu le choix, il dirait, Seigneur, prends-moi maintenant. Qu'est-ce que je vais encore faire sur cette terre? Il avait soif de servir, il savait que s'il restait, c'était pour servir. Mais au-dedans de lui, il savait très bien que de loin, ce qui était le mieux, c'est de retrouver le Seigneur. Mais aujourd'hui, même les chrétiens ont peur de mourir. Même les chrétiens ont peur de mourir. Pourquoi avoir peur de mourir? Pourquoi vouloir s'attacher à tout prix à la terre? L'apôtre, lui, n'avait pas peur de mourir. Au contraire, s'il en avait eu le choix, il irait retrouver son Seigneur. Mais les chrétiens ont peur de la mort aujourd'hui. Est-ce que la terre est si bonne que ça pour vouloir y rester le plus longtemps possible? Avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que nous avons énuméré sur cette terre, et rien ne va s'arranger. L'apôtre dit non, de loin je sais ce qui est préférable, c'est de mourir, d'aller retrouver mon Seigneur et d'être éternellement heureux. Parce qu'il avait compris les réalités de la terre, mais pour lui le choix était clair. Vivre pour le Seigneur ou être pour le Seigneur. Si je vis, c'est pour glorifier le Seigneur. Que si je meurs, ça soit aussi pour glorifier le Seigneur. L'un comme l'autre, le Seigneur doit être glorifié. Alors si nous vivons nous aussi, si nous voulons que les soucis de la terre ne soient plus des obstacles pour nous, vivons pour le Seigneur, renonçons à la terre, soyons prêts à tout, d'accepter de ce que le Seigneur permettra dans notre vie. Si nous sommes attachés au monde, attachés à la terre, bien-aimés, alors nous souffrirons aussi en conséquence. Nous clôturons avec Jean chapitre 18. Jean 18, à partir du verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Le Seigneur est venu sur terre pour une mission et pas pour autre chose. Il est arrivé à un moment donné, les disciples l'ont laissé, sont partis chercher de quoi boire, de quoi manger, et le Seigneur va leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On voit le Seigneur, lorsque, à un moment donné, les gens ont voulu le prendre pour l'établir roi, il a fui, parce que il a été déjà roi. Donc, être roi sur la terre, dans ces conditions-là, c'était pas ça le projet de Dieu. Lui, il venait pour mourir, parce que dans tous les cas, il était déjà roi. Pilate lui dit, mais moi, j'ai la possibilité de te libérer, de te faire sortir de cet état-là. Dans d'autres passages, le Seigneur va lui dire, mais tu n'as aucune autorité, aucun pouvoir sur moi. Il dit, mais mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Le Seigneur, venant sur terre, savait très bien à quoi s'en tenir. Il savait très bien ce qu'il devait subir. Vouloir être enfant de Dieu, vouloir être chrétien, et de dire, je veux l'être, mais moi, la persécution, à cause du nom de Jésus, je n'en veux pas. Alors, ce que nous n'avons pas compris, être chrétien, c'est quoi? Ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Ça fait partie de la règle. Le Seigneur, en venant, il l'a tout simplement accepté. Et il a accepté de vivre selon les réalités du ciel. Parce qu'au moment où on l'a arrêté, il s'est tout simplement laissé faire. Il a été logique avec sa mission, il a été logique par rapport à sa prédication. Si on te joufle là, tends tout simplement l'autre joue. Il dit, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il dit, mais mon royaume n'est pas d'ici. Quand on est venu l'arrêter dans le jardin et que Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, le Seigneur lui a dit, mais tu ne penses pas que je pourrais appeler mes anges pour venir combattre pour moi? Je peux le faire si je le voulais. Mais là, c'est l'heure des ténèbres. Je suis sur la terre pour livrer ma vie. Alors j'accepte d'aller jusqu'au bout. Le fait que le Seigneur soit allé jusqu'au bout de la mission, ça montre clairement qu'il n'avait aucune ambition sur la terre. Il n'avait aucune ambition sur la terre. Il n'avait aucun projet éternel sur la terre. Il est venu pour vivre le projet de Dieu et dire tout est accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné. Nous ne pourrons pas non plus aller jusqu'au bout de la mission si nous nous considérons comme habitants de la terre. Le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Acceptons d'être sur la terre, mais de vivre selon les lois de Dieu, de vivre selon le règlement du Seigneur. C'est de cette manière-là que nous allons tenir et que nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Il nous est dit que, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez les mêmes sentiments. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a accepté de se laisser dépouiller et se laisser dépouiller même jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est pour ça aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans douleur. Nous sommes de passage sur la terre. Il est vrai, nous allons souffrir un temps. Mais ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que le Seigneur revient et il essuiera toutes les larmes. Ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que les souffrances que nous pouvons subir sur la terre, un jour cesseront. Acceptons d'être perdants sur la terre, mais d'être gagnants éternellement avec le Seigneur. Alors que ça soit la maladie, que ça soit la disette, que ça soit la persécution, que rien ne nous éloigne du projet du Seigneur. Le monde est déjà voué à sa destruction. Ça ne sert à rien de s'y attacher et de former des projets comme si on allait vivre éternellement sur la terre. Ce que le monde te donne aujourd'hui, demain il te le reprendra sans concession, sans problème. Si le monde a l'occasion de te faire subir, de te faire souffrir, il le fera. Parce que nous sommes dans un monde où c'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Alors acceptons les contraintes du monde en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Le monde vous haïra, le Seigneur a dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça fait partie de notre réalité à nous en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre cela, à l'accepter dans la joie parce que nous savons qu'un jour ça finira et que nous serons éternellement avec le Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur de gloire, et tu sais ce qu'il y a au-dedans de nous, tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur Dieu de gloire, tu es vivant, et nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'implorons, Seigneur de gloire, encore ce matin, Seigneur, car toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur, libère-nous de tout ce qui nous attache à ce monde, Seigneur. Regarde au-dedans de nous, Seigneur de gloire, toutes les choses pour lesquelles, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans la convoitise. Mets toutes ces choses devant nos yeux, Seigneur, et délivre-nous de tout cela. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, perdre notre salut à cause des choses de la terre, Seigneur, des choses qui sont éphémères, qui ne durent qu'un temps, Seigneur Dieu de gloire, et qui ne rassasient pas de façon définitive. Seigneur, nous voulons vivre en toi, nous voulons vivre avec toi. Viens à notre secours, Seigneur. Regarde combien les soucis de la vie nous emmènent quelquefois à oublier la réalité du ciel. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, combien les choses de la terre nous emmènent, Seigneur de gloire, à oublier qu'un jour nous mourrons, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi, demeurer attachés à toi, Seigneur, parce que la vérité se trouve auprès de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous ces exemples que tu nous as donnés à travers Jean-Baptiste, Seigneur, à travers Paul. Nous croyons, Seigneur de gloire, par leur exemple, que c'est aussi possible à notre époque de vivre, Seigneur Dieu de gloire, de façon désintéressée au monde, Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, garder les yeux fixés vers toi. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Montre-nous, Seigneur de gloire, quels sont tes projets pour nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur de gloire, ce que tu attends de nous, car nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre, Seigneur, pour te servir. Considérez, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce que nous avons aujourd'hui, tu nous l'as confié, Seigneur de gloire, pour te servir. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi encore ce matin, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies. Emmène-nous, Seigneur Dieu de gloire, à vivre par la foi, à te faire confiance, Seigneur, car tu ne te trompes pas. Tes promesses sont véritables, Seigneur, et tu dis toi-même dans ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons considérer, Seigneur de gloire, que tu as toujours raison. Dans le nom de Jésus, toi qui ne refuses pas, Seigneur de gloire, un bienfait à tes enfants, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de grandir dans la foi, de grandir dans l'assurance dans tes promesses, Seigneur. Nous avons besoin de toi.